Il est 11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne. Et avec moi aujourd'hui en studio, j'ai le plaisir d'avoir une invitée. Bonjour Christine.
Bonjour.
Alors Christine, tu es venue jusqu'à Radio Campus Tours pour faire une chronique musicale, je crois.
Oui.
De qui vas-tu nous parler ?
Je vais vous parler de la chanteuse Pomme. Du coup, je vais vous présenter une chanteuse qui s'appelle Pomme, de son vrai nom Claire Paumé, qui est née le 2 août 1996. Elle est depuis toute petite plongée dans la musique, avec une mère qui joue de la flûte et un père qui en écoute beaucoup. Pomme fait ses années au lycée à Lyon, où pendant une période, elle va faire ses premiers concerts dans des bars lyonnais et autoproduit même un CD pendant son première année de seconde. Elle sort un EP en 2016 intitulé En cavale, et à la suite, elle sortira son premier album qu'elle donnera comme nom À peu près. Pomme est auteure, compositrice, interprète et musicienne française qui a pour genre musical du folk. Elle utilise assez souvent un instrument assez étrange pour pas mal de monde qui s'appelle de l'auto-harpe. Et l'auto-harpe, c'est un mélange de un peu de guitare, des cordons, c'est à touche et il faut gratter aussi à corps de pincée. Et j'aime beaucoup Pomme car sa voix, mon Dieu qu'elle est magnifique, mais vraiment... Je ne pourrais pas expliquer. Elle a, dans sa voix, il y a quelque chose qui vous transperce. Vraiment, c'est incroyable. Et, mais aussi beaucoup pour ses textes qui sont magnifiques et qui parlent à beaucoup de monde. Vraiment. Il faut aussi savoir que Pomme est très engagée dans beaucoup de luttes, comme l'homophobie, l'écologie. D'ailleurs, elle fait en sorte de... que ses pochettes d'albums soient écologiques, de faire pas beaucoup de trajets en route, en avion, tout ça, parce que c'est pas très écologique, du coup. Elle se bat aussi pour le féminisme, les violences sexistes et sexuelles, par exemple. Très récemment, elle a dénoncé la manipulation et l'harcèlement moral et sexuel qu'elle a subi durant ses 15 à 17 ans dans le monde de la musique. Elle a aussi parlé de sa maladie, si je peux dire ça comme ça, qui est l'anxiété et qui touche pas mal de monde. Et je trouve ça bien car en vrai, on n'entend pas assez parler de cette maladie qui touche vraiment beaucoup de personnes. Justement, elle en a fait une chanson qui est vraiment sublime, que ce soit dans la musique ou dans les paroles, et j'aimerais vraiment vous la faire écouter pour le coup.
See you.
C'était Pomme Anxiété, vous écoutez La Méridienne sur Radio Campus Tours et cette pause musicale vous était proposée par Christine.
Alors, merci d'avoir écouté cette musique. J'aime vraiment énormément ce qu'elle peut faire car du coup, dans sa musique, elle parle beaucoup de sujets sensibles et tabous. Comme on a pu le voir, elle parle d'anxiété, de la solitude, ou aussi du regard que la société peut porter auprès des homosexuels. Enfin voilà quoi, du coup... Enfin, elle a fait aussi une chanson qui parle de ça et qui s'appelle On brûlera et qui est vraiment très très belle. Du coup, je vous propose de l'écouter à la suite.
On brûlera toutes les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre. Et je veux partir avec toi. Je veux mourir dans tes bras. Que la mer nous mange le corps. Oh, que le sel nous lave le cœur. Oh, je t'aime. Je m'excuse auprès des dieux, de ma mère et ses louanges. Je sais toutes les prières, tous les vœux pour que ça change. Mais je veux partir avec toi. Je veux mourir dans tes bras. En enfer, mon ange, tu peux écrire tes adieux à la terre, mon ange, car je veux partir avec toi.
On brûlera de pommes dans la Méridienne, nous écoutez toujours Radio Campus Tours. Merci Christine pour cette écoute.
De rien. Maintenant, on va passer sur quelques infos sur Pomme. Alors déjà, Pomme, comme j'ai pu le dire au début, elle s'appelle en vrai Claire Paumé. Et justement, elle a choisi ce pseudo de chanteuse parce que ça fait référence à son nom et surtout aux blagues qu'on pouvait lui faire en fait à l'école primaire. Paumée, pomme, elle aime bien la compote, enfin voilà, c'est ce genre de petites choses. Aussi, elle est très intéressée par les sorcières depuis très longtemps. Et il faut savoir qu'avant, on brûlait les sorcières qui avaient des taches blanches et qui avaient des petites mèches blanches assez anormales, on va dire. Il faut savoir que Pomme, elle en a aussi une. Du coup, ça a un peu joué dessus et elle a fait la moitié de sa frange en blanc pour faire un rapport dessus. Et je la trouve aussi fascinante sur le fait de son univers. Par exemple, ses pochettes de disques qui sont dessinées avec plusieurs yeux, plusieurs bouches, plusieurs visages. C'est très, très artistique. Assez manga aussi un peu. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez elle. Et d'ailleurs, en rapport avec les sorcières, elle en a fait une musique en feat. Et je vous la laisse écouter.
Si tu portes du noir dans la vie, si tu sors le soir dans la nuit, si tu bois de l'eau chaude avec des fleurs dedans, si tu vois autre chose que la tête blasée des gens, tu es sûrement une sorcière, tu es sûrement une sorcière, tu es sûrement une sorcière, tu es sûrement une sorcière. Au creux de ton lit, si tu n'aimes pas trop qu'on te dise de sourire, si tu trouves ça beau, la lune et le saphir, tu es sûrement une sorcière, tu es sûrement. Remplace ta liberté.
Vous écoutiez Pomme dans la Méridienne sorcière et c'était un choix de Christine. Christine, je crois que Pomme a eu une récompense il n'y a pas longtemps.
Oui, aux Victoires de la Musique. Les Victoires de la Musique, c'est une émission où on présente, on donne des prix à des chanteurs sur des révélations de l'année, sur le meilleur album, tout ça.
Et donc elle a eu quoi comme, elle a eu quel prix, tu sais?
L'artiste féminine, si je me souviens bien, ou l'album de l'année, je sais plus trop. Elle a eu 2 victoires.
Peut-être que toi-même, tu écris? Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu dessines?
Oui, je dessine, mais je ne chante pas.
Est-ce que tout à l'heure, tu parlais de cet univers graphique, là, notamment sur la pochette de l'album, qui te parlait? Est-ce que c'est ce genre d'univers graphique-là que tu dessines?
Oui, assez de son dernier album, Les Failles. Oui. Et Les Failles Cachées aussi, la version Halloween, qui est assez similaire. Et je trouve les dessins vraiment magnifiques, assez abstraits, mais on comprend en fait ce que c'est.
Là, c'est le côté dit caché qui t'intéresse.
Oui.
C'est ça. Et toi, alors, est-ce que tu as une. Comment tu fais? Est-ce que tu as une collection de dessins? Est-ce que tu utilises des carnets? Est-ce que tu fais des. Est-ce que tu dessines comment?
J'ai beaucoup de carnets à dessin que j'appelle des sketchbooks. Où il y en a certains, je fais souvent des croquis. Il y en a certains, j'expérimente autre chose. Il y en a certains, juste, je fais des illustrations. J'essaie vraiment de m'appliquer, tout ça.
Mais est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent plus que d'autres dans tes dessins?
Après, c'est sur le coup, parfois c'est assez personnel, comme ça peut ne pas l'être. Et quand c'est pas personnel, c'est souvent des thèmes assez joyeux avec des personnes qui rigolent, tout ça. C'est un univers assez autre, mais je veux dire assez proche de la BD quand même. BD, manga, c'est assez proche, mais assez dans mon style en fait.
Et est-ce qu'il y a peut-être des auteurs graphiques voilà, qui peuvent être inspirants pour toi, des travaux que tu aimes bien?
Oui, j'aime énormément le travail de Marie Spénal, qui est une illustratrice qui travaille pour plusieurs personnes, souvent dans des magazines, on peut la retrouver, des magazines d'enfants, par exemple Manon, je crois, des magazines pour adolescentes, sur Instagram aussi ou sur YouTube. Ça fait 2-3 ans qu'elle a ouvert sa chaîne YouTube, qui s'appelle pareil, Marie Spénal, et elle montre ses idées, comment faire, ses anciens dessins, comment faire pour éditer une BD. Et je trouve vraiment son travail incroyable.
Donc ça veut dire que tu apprends aussi par ce biais-là, alors, de Instagram, de regarder le travail d'autres artistes?
Oui, je prends pas de cours, j'apprends par moi-même sur Internet, sur ce que je peux voir. Je peux reproduire ou refaire similairement, mais pas pareil.
Est-ce que c'est difficile alors d'apprendre tout seul à dessiner?
Ça va dépendre des personnes. Au début, oui. Mais moi, je dirais pas. J'étais directement passionnée, donc moi, j'aimais faire ça. Et je trouvais pas ça vraiment super dur. Je laissais juste passer et ça allait tout seul. Après, on peut pas dire que je suis un pro du dessin, mais je me débrouille.
Alors, qu'est-ce que tu aimerais essayer en fait en dessin? Est-ce qu'il y a un projet que tu aimerais faire autour du dessin?
Alors oui, mon métier plus tard, ce serait d'être illustrateur. Donc oui, du coup, le dessin, ça me tient à cœur. Dessiner soit pour quelqu'un dans un album, par exemple, ou faire mes propres histoires.
Et comment on fait alors pour devenir illustrateur? Comment on fait pour avoir ce métier-là?
Bah, on peut faire des écoles qui sont basées sur le dessin, ou sinon on le fait en autodidacte ou en auto-édition, où après il faut demander de l'argent à des personnes, tout ça. Ça fonctionne en fonction des lecteurs en fait. Après, c'est pas un métier très, très stable, on va dire. Et si ta BD marche, ton produit marche, bah c'est bien. Mais s'il marche pas, c'est ça peut être assez compliqué.
Alors, est-ce que c'est un bon plan, entre guillemets, d'avoir deux métiers, peut-être?
Il y en a certains qui arrivent à vivre de ça, comme Maryse Pénal. Au début, elle demandait, elle allait voir les personnes pour dire, regardez, je peux dessiner ça ou ça. Et maintenant, elle le fait plus, c'est elle qu'on vient voir. Mais après, elle disait qu'au début, c'était difficile, qu'elle devait avoir un boulot à côté. Quand on te connaît pas, qu'on connaît pas ton travail, que t'as pas un style assez défini, les personnes sont assez réticents, mais après ça dépend vraiment, mais on peut ne pas faire de boulot à la fois.
Alors ça peut-être que ça demande du temps quand même, le temps de se faire connaître, de...
Oui, ça demande du temps, ça, par contre. On ne devient pas illustrateur du jour au lendemain, à vendre plein de BD, tout ça.
Alors peut-être que tu connais ça, à Tours, il y a un festival qui s'appelle le À Tours de Bulles.
J'en ai entendu parler.
Voilà, donc ils ont... Enfin, quand il n'y a pas le Covid, bien sûr, ils font un festival qui s'appelle À Tours de Bulles, donc qui est place Châteauneuf à Tours. Et donc si je leur fais de la pub, c'est parce qu'ils ont aussi une émission de bande dessinée sur nos ondes, qui s'appelle Coup de Bulles. Et donc ils chroniquent divers albums dans cette émission, et c'est en podcast sur notre site. Donc voilà, je vous invite tous évidemment à aller y donner de l'oreille si vous vous intéressez à la BD. Christine, est-ce que tu voudrais peut-être recommander à nos auditeurs des choses à aller voir ou à aller écouter? Est-ce qu'il y a des illustrateurs, des dessinateurs que tu aimes bien et dont tu aimerais recommander le travail peut-être?
Là, sur le coup, j'avais dit Maryse Pénal. Mais après, il faut chercher. Il y en a plein. Enfin, ça dépend de qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous voulez aller voir, en fait.
Qu'est-ce que toi tu regardes peut-être en ce moment? Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu vas voir sur les réseaux?
Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment?
Ta dernière découverte peut-être?
Ma dernière découverte, ça aurait été un manga qui s'appelle Deadman Wonderland. Je connaissais déjà, mais là j'ai relu et les dessins sont vraiment magnifiques. C'est le dessiné, le dé, oh là, le dessinateur n'est pas le même scénariste.
C'est-à-dire qu'il fait les dessins mais pas le scénario, c'est ça?
Oui, c'est deux personnes différentes. Et les dessins sont juste magnifiques. Le détail et la précision. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Et en musique, du pomme.
Du pomme, c'est une bonne bande son pour dessiner, pomme.
Oui, sûrement ça détend.
Et alors, Christine, pour se quitter, pour dire au revoir à nos auditeurs, peut-être que tu as une autre chanson que tu aimerais nous faire écouter.
Alors oui, il y a Ceux qui rêvent de pommes, qui est vraiment une chanson très douce et calme, qui permet de dessiner.
Alors, on se quitte en écoutant Ceux qui rêvent de pommes. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Campus Tours.
Je ne sens pas blanche, à peine claire, semée d'étoiles, petit trou dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et moi envoûtée de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, minuit est là, ah, je ne dors pas, et moi je dors et plus je pense, et plus je pense, et moins j'oublie. L'immense impasse, l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit. C'est inouï tout ce silence qu'il est cosmique cet ennui. Dois-je recourir à la science, anesthésier l'insomnie? Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas. Et puis passé minuit, je danse au rythme des tachycardies. Et tout s'emballe et tout balance. Et tout m'étale et tout me fuit. La lune est un fruit un peu rance. La vie est une maladie. Ont bien de la chance et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance. Quant à moi, j'ai des insomnies. Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas. Ah,
Oui, bonjour. Alors, c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours. Et moi, mon truc, c'est la BD. Donc, tout à l'heure, je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Non, mais bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours, sur Radio Campus Tours.
.com. Je voudrais parler de Popeye.
Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de manga. Un manga, on a souvent le... c'est une construction un peu particulière parce que ça se lit dans le sens inverse de notre lecture à nous, notre lecture occidentale. Et puis, c'est en noir et blanc. Les personnages sont souvent... on pourrait penser que les personnages ont toujours les mêmes traits. C'est toujours un peu caricaturé sur les visages, les expressions. Et puis, quand on pense manga, on pense beaucoup à Dragon Ball Z, on pense à du combat, beaucoup de combats. Et j'avais surtout ça en tête, et j'avais essayé plusieurs choses, et au final, j'étais jamais tombée sur le bon. Ça se ressemblait beaucoup. Et puis après, j'ai commencé à lire d'autres choses, et des choses très différentes. Et ça, j'ai vraiment découvert ce genre-là pour ça, parce que, on découvre que dans le manga, il y a des thèmes qui sont explorés. On a des choses très commerciales, qui ne sont pas très intéressantes, mais il y a aussi d'autres récits qui sont beaucoup plus profonds sur les relations familiales, les relations d'amitié. Il y a des vraies réflexions derrière ces récits-là. Et ils existent, il faut savoir qu'ils existent, donc il faut les trouver. Donc il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Vraiment, il y a pas de restriction. Hein. C'est comme les romans, c'est comme les bandes dessinées françaises. Il y en a pour tout le monde. Dans notre événement TBD, c'est vrai qu'on a appelé ça TBD, mais c'est toutes les BD dans leurs ensembles en fait. Une BD, enfin un comics, un manga, c'est de la bande dessinée. C'est juste que ça a un nom différent, que ça a un héritage culturel différent, mais ça reste de la bande dessinée. Donc dans TBD, on propose aussi bien de la bande dessinée que du manga ou du comics ou n'importe quoi, ou de la bande dessinée serbe ou croate. On a fait sur le réseau de la bibliothèque, des bibliothèques de Tours, on a fait des grosses acquisitions récemment, c'est-à-dire qu'on a acheté pas moins d'une soixantaine de nouvelles séries. Donc ça fait beaucoup de nouveautés, et du coup je voulais vous en parler un petit peu plus précisément pour vous mettre en avant toutes ces super chouettes séries. Donc je vais d'abord vous parler d'une série qui moi m'a fait aimer le manga, parce que jusqu'ici je n'aimais pas les mangas. J'arrivais pas à accrocher à ce style de bande dessinée. Donc je vais vous présenter Beastars de Paru Itagaki. Donc Beastars, ça parle d'un monde où sont des animaux qui vivent comme des humains, un peu dans l'univers de Black Sad, s'il y en a qui connaissent. Et donc les animaux sont personnifiés, et on vit dans un monde où il y a d'un côté les herbivores et d'un autre côté les carnivores. Et pour que chacun puisse vivre en harmonie, il est interdit aux carnivores de manger les herbivores. C'est le tabou de la société. Et malheureusement, un jour dans un lycée, on découvre qu'un alpaga a été dévoré. Et donc la grande question, c'est qui a bien pu faire ça ? Et très vite, en fait, les soupçons se portent sur un loup qui s'appelle Legoshi, qui a 17 ans, qui traîne tous les stéréotypes qu'on peut attribuer au loup dans toute la littérature. Mais voilà, Legoshi, en fait, c'est un loup de 17 ans qui se pose beaucoup de questions sur ce que c'est être soi. Est-ce que être carnivore, c'est ce qui le définit uniquement ? Est-ce qu'il peut lutter contre sa vraie nature ? voilà, il se pose toutes ces questions-là et en fait, toute l'histoire, toute la série se passe au travers des réflexions de chacun des animaux. Donc on va croiser... Louis, qui est un grand cerf, qui lui est un herbivore et qui n'aspire qu'à une chose, c'est s'élever au plus haut rang de la société. Mais du coup, lui aussi, qu'est-ce qu'il définit ? Est-ce qu'il est fort parce qu'il est un herbivore ? Est-ce qu'il peut combattre tout ça ? On va croiser Haru, qui est une lapine naine, donc qui elle aussi se pose plein de questions sur sa place dans la société en tant que petit animal faible. Voilà, et les relations amoureuses, et donc c'est une très belle histoire sur ce que c'est qu'être soi. J'ai vraiment accroché avec tous ces animaux aussi, on rencontre toute une foultitude de personnages qui ont tous des choses très intéressantes à nous raconter. Donc actuellement on est au tome 13, ce sera une série qui va être publiée en 22 volumes. Donc voilà pour Beastars. Ensuite, je voulais aussi vous présenter, dans un tout autre genre, une plus petite série qui s'appelle Blue Flag de Keito. Et celle-ci, on en est à 6 volumes de mémoire et il n'y en aura que 8, malheureusement. Donc là, on est vraiment donc avec des personnages comme vous et moi. Mais là, ce sont des adolescents, des lycéens. Donc on a Taichi en fait qui est un lycéen lambda qui vit sa scolarité assez normalement, et puis un jour il y a une jeune fille qui s'appelle Futaba qui vient le voir, qui vient lui demander son aide parce qu'elle est amoureuse de Thomas, le beau gosse du lycée qui est très populaire auprès de tout le monde. Et en fait Thomas c'est un ami d'enfance de Taichi, donc Futaba vient lui demander des conseils pour savoir comment est-ce qu'elle pourrait attirer l'attention de Thomas, parce que Futaba est très timide, très maladroite, assez invisible dans le monde du lycée. Et donc ça pourrait être assez gnangnan, assez à l'eau de rose, et en fait pas du tout, c'est vraiment, alors déjà c'est drôle, ensuite il y a plein de réflexions sur l'amour, qu'est-ce que c'est qu'aimer, pourquoi on aime les gens. Il y a aussi des réflexions sur la sexualité. Il y a vraiment tout un tas de... Oui, voilà, des choses sur l'amour, le sentiment amoureux. Et c'est très très bien décrit. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette série aussi. Oui, et puis à chaque fois, à chaque fin de tome, il y a toujours, ça se termine en suspense, parce qu'on finit, on dit « Oh, c'est pas possible, il faut que je lise absolument la suite, ça peut pas se terminer comme ça ». Donc il y a aussi cette réussite de ce côté-là, où il y a un cliffhanger assez réussi à chaque fois. Donc voilà, c'est une série que je ne peux que conseiller. Il ne faut pas penser que c'est très lycéen et très à l'eau de rose. Il y a vraiment des très belles réflexions derrière tout ça. Voilà, et puis après, je vais aussi vous parler d'une dernière série. Je vais vous présenter « 5 Minutes Forward » de Hirashi Fukuda. Donc on suit Yamato, qui est un jeune garçon qui, en fait, grâce à un personnage qu'il rencontre dans la rue, qui, en fait, lui propose de voyager dans le temps, dans le futur. Et donc, Yamato dit « Oui, allons-y, pourquoi pas ?» Et donc du coup, ce personnage lui donne une amulette pour voyager. Et puis, en fait, il est très déçu parce qu'il ne se passe rien, donc il pense qu'il s'est fait avoir. Et puis en fait, non, il s'aperçoit qu'en fait, il a juste voyagé 5 minutes plus tard dans le temps. En fait, 5 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe ? C'est la fin du monde. Et en fait, il y a des Bouddhas géants qui débarquent et qui tuent tout le monde. Alors, c'est très sanglant, c'est hyper violent, âme sensible, s'abstenir, parce que vraiment, il lésine pas sur les tueries. Mais voilà, donc Yamato, il peut revenir... dans le présent, mais il se dit, mais comment est-ce que je peux faire pour arrêter ça, en fait. Je sais qu'il va y avoir la fin du monde, mais je ne suis que 5 minutes avant la fin du monde. Donc, comment je vais pouvoir faire pour sauver le monde ? Voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que c'est assez déroutant. Il y a beaucoup d'actions, mais voilà, encore une fois, j'insiste, il faut avoir l'estomac accroché, parce que... Ouais, les tripes volent, exactement, c'est ça. Donc voilà, et puis bon, on a plein d'autres séries à découvrir en manga, et vraiment pas hésiter à découvrir ce genre pour lequel, en général, on a des a priori. Moi, la première, mais c'est comme tout ce qu'il y a dans la littérature, il y a forcément quelque chose qui va nous plaire, qui va nous convenir et qui va nous faire entrer dans le genre. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir découvrir toutes ces nouveautés.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same.
Oui, bonjour, alors c'est la Bibliothèque Municipale de Tours sur Radio Campus Tours, et moi mon truc c'est la BD, donc tout à l'heure je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la Bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises, non, mais bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la Bibliothèque Municipale de Tours sur Radio Campus Tours.
.com.
.com.
Je voudrais parler de Popeye.
Eh bien, ce soir, j'ai souhaité vous présenter un ouvrage qui a été écrit par Fleur Dauget et illustré par Sandrine Thomen, publié par Actes Sud Junior, et qui s'appelle Yokai, le monde étrange des monstres japonais. Car les yokai sont des monstres familiers japonais, spécifiques à cette culture qui allie la spiritualité bouddhiste au shintoïsme, qui est une religion ancrée quasi exclusivement au Japon. Ces monstres, alors on dit monstres par commodité de langage, mais ils n'ont pas tous des apparences effrayantes. De même, il y en a certains qui sont bons, il y en a qui sont intégralement mauvais, mais la plupart oscillent un petit peu entre les deux pôles. En tout cas, ils sont très souvent farceurs. Donc voilà, ces esprits, ils ont tous une histoire, ils ont tous un contexte culturel. Et ce livre, ça constitue une première approche du phénomène. Et il est extrêmement bien fait. Il comble aussi une lacune éditoriale parce que, il existe d'autres livres sur les yokai qui ont été publiés en français, notamment un imposant dictionnaire qui a été signé Shigeru Mizuki, édité chez Pika. Mais ici, on a quand même une excellente vision d'ensemble et surtout une illustration qui est au top, qui reprend vraiment beaucoup de codes de l'iconographie japonaise, mais qui les occidentalise et les modernise très bien avec une utilisation du trait et de la couleur qui sont assez réussies et assez subtiles. Ensuite, je dirais que le livre a le défaut de ses qualités, dans la mesure où il s'abreuve aux meilleures sources, mais ne les cite pas. Et ça, c'est peut-être une déformation professionnelle, et voilà, le bibliothécaire que je suis grince un petit peu des dents. Mais enfin, pour rendre justice à l'auteur, elle s'est nourrie aux sources les plus fiables et les plus agréables, on va dire, puisque un grand pionnier en la matière, c'est Lafcadio Hearn, qui était un Irlandais, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qui a vécu dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui a beaucoup voyagé, qui a été passionné, vampé littéralement par le Japon, la culture japonaise, à tel point qu'il s'y est établi. Il était enseignant et chercheur là-bas, et donc il était parfaitement bilingue. Il a même pris un nom japonais à la fin de sa vie. Et c'est un homme qui est essentiellement célèbre pour avoir publié en anglais, des histoires de fantômes et de monstres japonais. Le plus célèbre de cercueils s'appelle Kwaidan. Il a été adapté au cinéma par Masaki Kobayashi, qui était déjà connu pour un film qu'il a réalisé au début des années 60, qui s'appelait Seppuku, et donc qui en Europe s'appelle Harakiri, puisque nous on appelle Harakiri ce que les Japonais appellent Seppuku. Ne me demande pas pourquoi. Et donc Kobayashi, il en a fait le film de sa vie, et il a adapté plusieurs contes qui étaient dans le livre original Kwaidan, mais d'autres qui sont extraits d'autres compilations, notamment une qui s'appelle Shadowings. Donc voilà, parmi les créatures qu'on peut rencontrer, il y a les Noperabo, par exemple, qui sont des créatures humanoïdes, mais qui n'ont pas de visage, dont le visage est totalement effacé. Et donc l'auteur nous précise que les Noperabo peuvent être des loutres qui se transforment pour jouer des tours. Il y a également d'autres esprits comme le Tanuki, par exemple. Alors, le Tanuki, il est intéressant parce qu'il fait partie de ces yokai qui peuvent être plus familiers à une certaine génération parce qu'ils ont beaucoup influencé les Pokémon. Les Pokémon, en fait, c'est des yokai. Et Pokémon, en fait, je crois que ça veut dire monstre qui tient dans la poche, quelque chose comme ça. Et donc, le Tanuki, en fait, c'est un yokai qui a été inspiré par le chien vivérin, qui est un petit canidé. Et alors il est rigolo parce qu'il se transforme souvent, et il est surtout muni d'une gigantesque paire de testicules qu'il utilise comme arme, comme balancier, ça nous ramène aussi à des illustrations plus anciennes qui datent du 19e. On connaît beaucoup Hokusai, c'est l'artiste le plus connu, dont la bibliothèque d'ailleurs possède le dernier volume de la mangaka, qui est en fait un ensemble de fascicules qui était destiné aux dessinateurs pour qu'ils aient des modèles à reproduire, pour se faire la main, exercer leur art. Et donc il y a tout un ensemble de créatures, de scènes, de paysages qui sont croqués et dessinés. Mais il y a également d'autres artistes qui sont un petit peu moins connus. Il y a Kuniyoshi par exemple, et alors il y en a un troisième que j'aime beaucoup, et qui est cité dans ce livre, et qui est Hiroshige. Et ces artistes-là, le Grand Palais, il y a quelques années, avait réalisé une rétrospective de leur travail, et je me souviens que c'était vraiment un éblouissement de tous les instants, parce que il faut déjà se figurer la quantité impressionnante en termes de production. Tu te dis, c'est des gens qui ont dû vivre 80 ou 90 ans en dessinant jour et nuit non-stop pour produire autant de choses, et il n'y a rien acheté. Tout est réussi. Alors évidemment, ils se nourrissent beaucoup du folklore, mais donc il y a tout un tas de légendes, de faits qui sont enjolivés, qui sont relatés par le dessin, mais aussi une espèce de verve dans la façon qu'ils ont de croquer des scènes de genre, des personnages, des attitudes, mais aussi cette espèce de de splendeur du paysage, voilà, simplement esquissé, parfois quelques traits qui sont merveilleusement évocateurs, une notion du rythme graphique qui est complètement différente de celle qui a prévalu dans la construction des images en Occident, et puis l'inventivité formelle qui est sans cesse renouvelée dans la façon dont ils dépeignent les personnages, leurs attitudes, les actions. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'éblouissant. Et on en a, je pense qu'on a une première approche de tout ce folklore, de toute cette, voilà, ce travail graphique dans ce livre-là. Donc en fait, il est vraiment extrêmement riche. Moi, je trouve qu'il déborde de très loin son sujet premier, qui en soi est déjà passionnant. Et même au niveau de la sociologie et de la culture japonaise contemporaine, il révèle beaucoup de choses, en particulier quand il parle des yokai qui n'existent plus, notamment le lécheur d'huile, tout simplement parce que quand on est passé à l'électricité, il n'avait plus de raison d'exister. En tout cas, il n'a pas souhaité lécher les ampoules électriques. Et puis il y a également des yokai contemporains qui sont apparus au cours du XXe siècle. Il y a celui qu'ils appellent la passante horrifiante, qui porte un autre nom, je crois que c'est la femme qui rit aussi. Il y a un manga assez court, hein, en deux ou trois volumes, qui a été publié, ça doit faire une quinzaine d'années maintenant en France, qui a repris ce personnage. Dont on pense qu'il incarne l'angoisse qu'ont les enfants devant cette obsession de la réussite qu'on leur impose dès leurs années d'école. Et puis il y en a une également que j'aime bien, tuk tuk tuk, je vais la retrouver, il faut que je feuillette le livre rapidement, voilà, Toire no Anako, qui est Anako des toilettes. En fait, c'est un fantôme de petite fille, alors habillée en écolière, l'écolière japonaise, avec la petite jupe à carreaux et puis les grandes chaussettes qui remontent jusqu'aux genoux. Et en fait, qu'apparaît, hop, d'un coup, quand on est aux toilettes, à l'école, ou alors, elle n'est pas méchante, mais bon, je me mets à la place de la personne qui la croise. Ah, coucou, vous êtes là. Donc voilà, ça aussi, c'est un yokai qui est apparu au cours du XXe siècle et des années 80 en particulier, qui s'est développé. Donc voilà, c'est un petit peu comme les soucoupes volantes chez nous. C'est un mythe qui est en train de se... Enfin, qui se construit et qui évolue. Et c'est fascinant parce que ce mécanisme-là, pour tout ce qui a trait au mythe antique, on l'a perdu. Et même, on a du mal à rassembler les pièces du puzzle pour tout ce qui a trait aux apparitions du diable et à ce qui a accompagné la sorcellerie en Europe. Mais là, on a un matériau de première main qui nous permet de voir comment les mentalités évoluent et s'adaptent aux difficultés de la vie courante.
Alors, à écouter cette chronique, ce qu'on peut trouver assez, assez génial, c'est de se dire que dans le Japon d'aujourd'hui, il y a encore une place pour ces créatures, en fait, pour ce magique, pour les esprits, alors que, comment dire, c'est quand même plus difficile de trouver ça dans une culture, disons, française en tout cas. Parce que le diable et compagnie, c'est quand même très rare qu'il y ait des gens qui lui laissent une place dans le quotidien.
Ah, il est vrai que maintenant, cette place, elle a tendance à se réduire énormément. Mais il y a des émissions de télé des années 70 qui peuvent témoigner que très récemment encore, c'était une réalité courante en milieu rural en tout cas. Et il y a des folkloristes comme Claude Seignolle, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps, il y a 2 ans je crois, et qui lui connaissait très bien la région parisienne et d'ailleurs qui a écrit un folklore du Repois. Et qui lui avait connaissance d'authentiques sorcières qui habitaient à Bourg-la-Reine, et Bourg-la-Reine tuée en petite ceinture parisienne. Donc, alors bon, c'est sûr que c'était pas au début du XXe, c'était pas urbanisé comme ça l'est maintenant, mais on n'était pas dans la campagne profonde.
Alors, je serais curieuse de voir comment réagiraient des personnes plus ou moins âgées d'ailleurs, dans une bibliothèque, si tant est qu'il y en ait, dans certaines petites villes, vraiment en commune rurale, comment les gens réagiraient à une exposition autour des yokai, en fait. Je serais curieuse de savoir ce qu'on dirait des dames d'un certain âge, peut-être dans le Berry, par exemple.
Alors attention, parce que tu t'attaques à un sujet que je connais bien, parce que ma maman est berrichonne, et donc mes grands-parents maternels l'étaient aussi. Et effectivement, il y avait une je dirais plutôt que c'était une forme de superstition qui s'attachait à certains événements qu'on peut avoir du mal à expliquer, qu'ils soient naturels ou autres. Et j'y pensais en plus spontanément quand tu disais ça. Il est pas impossible qu'ils disent oh bah, qui que c'est que ce truc-là, ça me rappelle ben quelque ou quelque chose. C'est pas impossible du tout. Hein. Je sais que ma maman me racontait, je raconte ma vie, hein, je suis désolé, mais il suffisait que tu trouves un papier au bord de la route. Si tu avais le malheur de demander ah bah tiens, c'est quoi, touche-y donc pas, on ne sait pas qui que ça peut être, parce que là, on retrouve un petit peu la peur de pratiques ancestrales d'envoûtement et donc d'objets qui sont maléficiés, et il suffit que tu les touches pour que tu attrapes le mal. Et un des grands principes de la sorcellerie, c'est justement l'équilibre des énergies. Et quand tu dois désenvoûter un objet maléficier, tu fais passer le mal ailleurs. Rien ne disparaît. Donc, soit on fait crever un animal ou un arbre, soit on passe le mal au sorcier qui l'a envoyé en première instance. Et là, il y a une forme de punition morale en plus d'une guérison, on va dire, de la personne qui est envoûtée. Et ça, c'est des principes qui existent encore chez des gens qui sont rebouteux, que j'imagine qu'on ne voit plus voir pour des motifs d'envoûtement, mais pour soulager des maladies ou des problèmes de santé.
Dans les contenus de la bibliothèque municipale de Tours, est-ce qu'il y a des choses sur la culture du Berry, sur les objets maléficiés et autres sorcières ?
C'est une bonne question. Je ne sais pas, parce que personnellement, je n'en ai pas cherché, mais je serais étonné qu'on n'ait pas des ouvrages de Van Gennep, par exemple, sur le folklore. Et comme là, on est dans la région centre, hein, donc on n'est pas dans le Berry même, mais on est juste à côté. Il est tout à fait possible qu'il y ait des références. En tout cas, un tel fonds existe bel et bien chez nos collègues de Châteauroux.
Du Japon à Châteauroux, il n'y a qu'un pas, bien sûr. Alors, est-ce que Guillaume, tu veux nous rappeler le titre de l'ouvrage ?
Les références bibliographiques, en somme.
Exactement.
Yokai, le monde étrange des monstres japonais, de Fleur d'Auget et Sandrine Thomen, publié chez Actes Sud Junior, disponible à la Bibliothèque Centrale.
Répétez après moi.
Après moi.
Non.
C'est fou.